mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs précaires, vous êtes avec l'équipe d'AC1920. Bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Il y a également José avec nous d'une autre émission mais qui va venir nous parler des caisses d'allocation familiale. Donc ce soir au programme, comme je viens de le dire à l'instant, nous allons parler effectivement de la disparition des caisses d'allocation familiale, donc dit les CAF, en région parisienne, de la mobilisation des travailleurs sociaux de la DASES, donc à Paris, ville de Paris, et de l'opportunité de la Grèce de sortir de la zone euro et de transformer l'Europe pour devenir une Europe sociale et solidaire. On essaiera de voir si c'est possible, avec Ludo bien sûr. Et oui, bonsoir à nouveau à tous et à toutes dans cette soirée bien chaude, puisque Paris, il fait bien 40 degrés ou 35 degrés à l'ombre. Ici, il fait très chaud également. Bon, merci José d'être parmi nous ce soir.
Merci Gilles.
Voilà, alors dis-moi un petit peu, sur la région parisienne, apparemment, les CAF, donc les caisses d'allocation familiale, se ferment les unes après les autres. Il y aura une trentaine de caisses...
Seine-Saint-Denis, moi, je vais
En parler. Seine-Saint-Denis 93, voilà. Voilà, tout à fait. Dis-nous un petit peu ce qui se passe aujourd'hui.
Alors, déjà, je vais dire la situation actuelle de la caisse d'assurance maladie en Seine-Saint-Denis. Alors, c'est simple. Je donne des chiffres pour vous. Il y a environ 1 530 000... assurés sociaux, dans régime général simplement. Il y a 230 000 bénéficiaires des CMU, donc la couverture maladie universelle, 55 000 bénéficiaires d'aide médicale d'État, alors qu'en France, il y a en tout environ 250 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Il y a 425 250 titulaire d'un compte Amélie, donc le compte de la sécurité sociale sur Internet, 1500 agents, alors qu'il y en avait plus il y a encore 10 ans, 3 milliards d'euros de prestations versées, 5700 personnes reçues chaque jour dans les accueils de 93, 3700 appels téléphoniques par jour, 1100 emails envoyés par jour, et malheureusement, 135 agressions d'agents en 2014. Peut-être, si vous voulez bien, on peut parler de l'agression d'agents, parce que c'est pas normal, quelqu'un qui va travailler, qui se fasse agresser dans son lieu de travail.
Oui, on peut en parler, mais je voudrais d'abord savoir, dans un premier lieu... pour quelles raisons politiques ces fermetures ont été décidées, en fait?
Alors, les raisons politiques, vous savez, ça fait un moment donné, on nous parle des trous de la sécurité sociale. On a inventé des impôts tels que le CSG, c'était pour renflouer la sécurité sociale. Comme si la CSG ne suffisait pas, on a inventé le RDS, remboursement des dettes sociaux, pour financer la sécurité sociale. Et ça ne suffit pas. Il y a les parlements qui votent aussi un budget pour la sécurité sociale. Et moi, personnellement, ça n'engage que moi. Si les patrons payaient des cotisations sociales, ce serait très très bien, parce que il y a l'IRSSAF qui a été créé aussi pour financer la sécurité sociale. Mais nos gouvernements donnent des cadeaux aux patrons. Ouais. Il y a eu à peu près 22 milliards d'exonérations de cotisations sociales aux employeurs, 6 milliards de crédits impôts recherche, 6 milliards de baisses de taxes professionnelles. Et les entreprises qui ont obtenu la mise en place de crédits impôts pour la compétitivité emploi, les fameux CICE, et ça leur a apporté 20 milliards d'euros par an. Et le gouvernement actuel affiche clairement son orientation ultralibérale. Vous voyez ?
Oui, il faut préciser que le trou lui-même est estimé entre 15 et 20 milliards actuellement, quoi. C'est pour donner un ordre d'idée.
On est plutôt près de 20 milliards que de 15, a priori.
Oui, tout à fait.
Avec les 22 milliards d'exonération, ça pourrait être d'exonération des charges patronales, des taxes, des cotisations patronales, ça pourrait amplement renflouer les trous de la sécurité sociale. Hein. Et puis, parce que ces exonérations ont des conséquences terribles pour le financement de notre protection sociale, pas seulement la sécurité sociale.
Bien sûr.
Cela correspond à une perte de recettes entre 2 et 3 milliards d'euros par an pour la sécurité sociale. Vous voyez ?
Alors, excuse-moi, José, mais ces restructurations, c'est fait pour juste reconstruire derrière d'autres CAF plus modernes, plus, qui accueillent un public plus, de façon meilleure. Ou c'est simplement pour ne rien faire du tout, c'est-à-dire qu'on supprime simplement les CAF, point barre. Quoi.
Alors, pas les CAF, hein, je parle des CPAM.
Oui, pardon, hein. CPAM.
Alors, et ils disent révolution, ils veulent remplacer les accueils par des bornes en libre service. Vous voyez? Des bornes en libre service et les comptes amélite, vous voyez? Vous avez besoin de quelque chose, vous allez sur Internet. C'est comme si tout le monde maîtrise cet outil. Parce que ça commence avec EDF. Hein, avant, on avait des endroits où on pouvait aller payer nos factures. Maintenant, il faut aller sur Internet ou c'est là. Et on se demande où on va.
Et d'autant qu'il y a, il y a toujours d'énormes queues à la CAF. Il y a toujours des gens qui ont des problèmes à régler, des problèmes de trop verser ou plutôt d'allocation pas versée et donc on se demande, à l'ANPE on a connu ça finalement anciennement à CEDIC est devenu et ANPE est devenu Pôle emploi où finalement on a mis les gens le plus loin possible des guichetiers progressivement, hein. Je crois que pour son inscription ça se fait maintenant par internet ou par téléphone. Mm-hmm. Et où finalement les agents font du moins en moins de travail d'accueil. Comment ça va être possible avec les CAF puisque c'est toujours hyper encombré.
Moi je parle pas encore des CAF, je parle des CPM, caisse d'assurance maladie.
Okay.
Parce que Faut se dire une chose, les auditeurs, peut-être on ne se rappelle pas, cette année, c'est les 70 ans de la création de la sécurité sociale, sécurité sociale en général.
C'est pas un grand anniversaire, hein, visiblement.
Oui, c'est vraiment l'anniversaire parce que ça a été créé par le Conseil national de la résistance, par les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945. Parce que dans l'esprit des révolutionnaires, c'était que il faut pas que les gens puissent souffrir parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, que les gens n'aillent pas se faire soigner parce qu'ils n'ont pas d'argent, et que il y a eu des veufs, des orphelins, et qu'ils ne soient pas dépourvus. Vous voyez, l'idée était ça, qu'on a créé la sécurité sociale. Le nom dit bien ce que ça veut dire, sécurité et sociale.
Absolument.
Maintenant, on est en insécurité, voire même pour ceux qui y bossent. Parce que, il y a, en Seine-Saint-Denis, je ne parle pas de toute la France, j'avais dit, il y a 1500 agents. Mmh. Okay? Il y en avait beaucoup. Et ces agents-là, ils sont très peu, ils accueillent, ils doivent traiter des dossiers. Et les dossiers prennent des retards. Les seules agences qui sont ouvertes, ça fait une queue, pas possible. Tu prends ta journée et tu fais 2 à 3 heures de queue. Et quand tu
arrives devant l'agent,
l'agent te dit ton dossier n'est pas, il faut attendre.
Ou alors il n'est pas complet, il manque un papier, quoi.
Un papier, il faut refaire ça. Et déjà, sans parler, hein, tu habites à l'autre bout de 93, tu dois te rendre à Bobigny. Combien de correspondances tu fais? Oui, tu fais des correspondances. Parce que il y avait 33 points d'accueil. Et en septembre, ils vont fermer 18 pour n'en rester que 15. Et ce n'est pas fini. Vous voyez ?
Et les agents, ils sont reclassés ? Comment ça se passe ?
Non.
Ils sont licenciés ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il y a suppression des postes.
Suppression des postes, d'accord.
Oui. Bon, ça gueule, hein.
Oui, parce qu'en plus, enfin, c'est presque une façon de décourager les gens d'avoir accès à leurs droits, parce que on imagine que le 93, c'est un endroit où il y a beaucoup de demandes, où il y a beaucoup de besoins.
Tout à fait, parce que on avait créé en 2010 l'Agence régionale de santé,
l'ARS.
En Île-de-France, c'est dirigé par l'ancien ministre de la Santé, Claude Évin.
Claude Évin. Oui.
Hein, c'est lui qui a interdit les clopes, hein, sur les places publiques. OK? Et le but de l'ARS, c'était aussi pour lutter contre les inégalités territoriales et sociales. Alors, la Seine-Saint-Denis, c'est un des départements de France qui souffre des inégalités territoriales et c'est lui aussi qui est le plus frappé. Vous voyez, qui est aussi le plus frappé. Tu parlais tout à l'heure de la CAF, ok? Bon, soi-disant décentralisé, il y a eu transfert des charges au détriment du conseil général. Aujourd'hui, ça s'appelle conseil départemental. Et dans leur budget, ils doivent payer les RMI, enfin les RSA, tout ce qui est prestation. Vous voyez, l'État se décharge. Hein? Alors que moi, je vais fâcher personne. On prend nos bulletins de paye. Regardons combien on est prélevé pour aller financer la sécurité sociale en général. OK? Et que nous, on demande à être accueillis. Parce que c'est notre droit, parce que ça fait partie de la solidarité nationale. Hein? On demande d'être accueillis, on ne peut pas être accueillis. Et ça, c'est les inégalités. Et quand on pense, OK? C'est un gouvernement de gauche. Et le gouverneur de gauche, le président qui s'est dit de gauche, il a lancé sa campagne en Seine-Saint-Denis, au Bourget, là où il avait dit que son ennemi, c'est la finance. Le Bourget, c'est là où les communistes se réunissent tous les mois de septembre, tous les week-ends des mois de septembre à la fête de l'humanité. Et c'est là qu'il a choisi pour lancer sa campagne, pour dire que son ennemi, c'est la finance. Aujourd'hui, le monde de la finance se frotte les mains. Il applique le programme du MEDEF. Et Pierre Gattaz est très content parce que notre président disait, bon, son objectif, c'est réduire le chômage. Il applique les plans que Gattaz lui a dictés en disant qu'il y aura 100 000 créations d'emplois. Et on attend toujours.
Bien sûr.
On attend toujours. Et là, on s'est fait avoir.
Oui.
On s'est fait avoir.
Alors, je suis d'accord, José, mais moi, je voudrais revenir juste un instant sur la disparition des CAF,
CPAM,
pardon, sur le 93. Donc, apparemment, il y en a une trentaine qui ont disparu.
Il y avait 33 points d'accueil.
Oui.
Hein?
Donc, maintenant, il ne reste plus que 20, c'est ça?
Non, et là, ils vont fermer 18.
D'accord.
Il n'en restera que 15.
Et
ce n'est pas fini. Et puis, ceux qui sont ouverts, en ce moment, on n'est pas sûr de les trouver ouverts. Parce qu'on n'annonce même pas. Je prends l'exemple des villes tanneuses et des Pierrefitte. Du jour au lendemain, on avait un panneau, hein, la CAF, enfin, la CPM, l'assurance maladie, est exceptionnellement fermée ces jours. Exceptionnellement fermée ces jours. Depuis l'été 2014. OK? Exceptionnellement fermée. Et après, six mois après, les écriteaux devant les locales ont disparu, sans prévenir la population. Et Nicolas Lebelec,
le nouveau directeur départemental,
reconnaît dans les Parisiens du 20 avril, il dit lui-même qu'on peut lui reprocher des déficits d'information. Vous voyez ? Il est dit, il le reconnaît parce qu'ils ont fait ça à la sauvette.
Oui, en fait, c'est une façon, grosso modo, de réduire les services publics sans prévenir la population, quoi. Et donc de les mettre devant le fait accompli. Alors moi, j'ai une question, parce que je n'ai pas souvent à la CPAM. C'est vrai que je suis plutôt... on aurait plutôt tendance à aller à la CAF, hein, quand
c'est vrai,
on a
c'est
des
vrai.
Enfants ou, voilà, ou quand on est en galère. Et du coup, quand José, la CPAM, finalement, on y va pour quelles circonstances? Dans quelles circonstances exactement?
Alors, il y a plusieurs raisons. Ok. Tu es malade. Tu as besoin de se faire rembourser. Et que tu ne trouves pas clair dans ton dossier. Tu vas à CPR. Tu as un accident de travail. Normalement, quand tu as un accident de travail, tu n'as pas avancé dessous pour se faire soigner. Vous voyez? Et que tu as peut-être besoin d'être renseigné. Rien que pour être renseigné ou remplir des formulaires. Tu as des enfants. Hein, tu viens d'avoir des enfants. Il faut que tes enfants soient enregistrés dans ta carte vitale. Carte vitale. J'aime bien ce mot-là. Vitale. Bon, bref. Et que il faut aller à la CPM. Bon, en tout cas, c'est notre droit. Bon, déjà, on parle de fermeture physique. Mais sans parler de médicaments qui sont déremboursés.
Oui.
Tout ça, ça fait... On nous a dit, oui, voilà, des génériques. Bon, les génériques commencent à entrer dans les mœurs. Maintenant, il y a des médicaments qui sont déremboursés. Finalement, la solidarité nationale, qu'est-ce qu'on a fait?
Tout ça, c'est oui, et puis l'accès aux droits, l'accès aux soins.
Merci José, en tout cas, pour ton intervention sur ce sujet. Tu restes avec nous pour intervenir sur d'autres sujets.
Oui, mais je reste. Je reste.
Très bien. Donc, on va se permettre une petite chanson et ensuite, on prendra le deuxième sujet. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Nous passons au deuxième sujet qui concerne donc la DASES, donc c'est la Direction des Affaires Sociales, qui sont effectivement en émoi puisque 2000 travailleurs sociaux se sont joints à la manifestation à Paris à l'appel de l'intersyndicale pour des raisons de restructuration des services, ce qui fait quand même un certain nombre de problématiques pour eux puisqu'il va peut-être y avoir effectivement des licenciements en perspective, enfin un certain nombre de choses importantes pour eux, pour ces agents. Donc j'ai fait un petit enregistrement de rue qui va durer très peu de temps, mais avant tout il y a quelqu'un au téléphone, je vais le prendre tout de suite, c'est Hamid, donc de la CGT, voilà, je t'écoute, allô.
Ouais, bonsoir.
Oui, bonsoir à toi.
Ouais, donc je vais faire un petit rapide tour à tour, en quelque sorte du propriétaire au sein de la ville de Paris, hein, les administrations parisiennes, avec ce qui se passe actuellement concernant la DASES, la Direction de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Enfance, de la Protection de l'Enfance. Hein.
Oui.
Aujourd'hui, il y a une restructuration qui est faite sur les différents bureaux et qui fait qu'on redéploie des postes, on supprime les missions de service public en destination du usager, bah de fait avec bien sûr avec pour but affiché ou pas affiché de faire des économies qui doit être de 140 millions d'euros cette année à la ville de Paris. Alors moi je voudrais qu'on projette un focus quand même sur certains services qui y a une défaillance et il y a une fatigue, il y a un épuisement professionnel de la part des travailleurs sociaux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les travailleurs sociaux gèrent à peu près une cinquantaine de dossiers, mais quand j'ai une cinquantaine de dossiers, c'est des dossiers éducatifs. Hein. C'est-à-dire que lorsque il y a le juge des enfants confie aux travailleurs sociaux, la gestion éducative d'un enfant, ça veut dire qu'on s'occupe de sa scolarité, de la prise en charge médicale, à travers la prise en charge au niveau de l'assurance maladie, et puis aussi de suivre et avec différents partenaires, que ce soit la CAF ou et différents.
Donc tu veux dire que c'est un accompagnement qui va sur la durée, donc c'est une année voire plus.
Jusqu'à 18 ans, voire 21 ans. Toi.
D'accord.
Donc ça veut dire que en s'occupant, en essayant d'avoir une qualité de travail. Ça veut dire que au bout de course, on donne la chance à ces enfants d'acquérir des compétences, un métier et ensuite d'avoir tous les outils pour pouvoir se battre, trouver un boulot et finalement essayer d'avoir une vie garantie. Et aujourd'hui, avec ce manque de moyens et cette surcharge de travail, de fait, il y aura moins de qualité, hein, et donc on va faire du chiffre, et de fait, ben on va toutes les missions qui sont dévolues à ces travailleurs sociaux, ben finalement on aura des choses qui vont être mal faites, et de fait, ben ça va créer ben des gens qui ont peut-être des choses qui des dérapages et autres, toi, parce que sache que quand il y a quand un enfant a des problèmes avec la police,
oui,
ou la justice, c'est l'éducateur spécialisé, donc le travailleur social, qui s'occupe, qui va au commissariat, qui va le chercher, qui s'occupe avec le juge, qui s'occupe de tout ça, quoi. Donc oui, c'est un énorme boulot éducatif. Donc en augmentant la charge de travail des travailleurs sociaux, je veux dire, de fait, on va mal s'occuper des enfants.
Bien sûr.
Ça c'est déjà sur la protection de l'enfance.
D'accord.
Sur les travailleurs sociaux qui sont en scolaire. Avant, à Paris, tu avais à peu près, tu avais 11 territoires où tu avais des travailleurs sociaux qui travaillaient sur X écoles. Aujourd'hui, on diminue les territoires à 9, et bien sûr, on augmente la charge de travail et de fait, on fait de la mauvaise qualité. Donnez un exemple. Aujourd'hui, il y a 126 travailleurs sociaux pour 630 écoles. 630 écoles à Paris.
Oh la vache. Ouais.
Donc, et puis, ça fait à peu près 240 000 élèves.
Oui.
Donc, ça veut dire que ça va de tous les signalements, de la gestion des enfants pour pouvoir leur trouver des aides pour pouvoir manger à la cantine, ou lorsqu'il y a des soucis, des problèmes avec la famille au niveau de la protection de l'enfant. Donc protection de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut vite s'en occuper et voir comment on peut, dans un premier temps, mettre une mesure éducative avec les parents. Et si c'est grave, on sort l'enfant de la famille pour que le mettre dans un centre,
oui,
qui soit bien accueilli, et ensuite qui a un référent, c'est le travailleur social.
Alors juste une question avant, parce que j'ai un de mes collègues qui veut poser une question que je vais te passer.
Oui, j'ai deux questions, mais qui n'en est qu'une. Est-ce que vous, les travailleurs sociaux, est-ce que vous subissez aussi les pressions de la hiérarchie? Et la même question, vous êtes aussi, comment on appelle ça, vous connaissez aussi la violence auprès des usagers, les agressions?
Alors, il y a la violence, effectivement, elle a augmenté. Hein, donc, des usagers dont la violence sur les agents de la ville, hein, donc elle a augmenté. Donc, c'est compréhensible vis-à-vis de ce qui se passe avec... la charge et la diminution des aides vis-à-vis des usagers. Et donc, on sent aussi que la violence augmente et de plus en plus de violence qui est mise sur l'agent. Et c'est vrai, ça crée vraiment des difficultés parce que il y a des gens qui arrivent à prendre le dessus en disant écoutez, c'est pas vraiment de leur faute parce que ils sont aussi piégés à travers les aides, parce que figure-toi, aujourd'hui on fusionne des différents services, on fusionne pour pouvoir créer une porte unique. Ça veut dire un bouchon. On va créer un bouchon qui avant tu avais plusieurs, comme tu disais tout à l'heure, la personne disait que il y avait plusieurs antennes de la CPAM qui permettaient aux gens d'aller dans différents centres, et ensuite ces centres de gestion permettaient aussi de fluidifier le travail des agents et d'avoir une meilleure qualité de rendu de service et d'émission en destination des usagers. Mais en diminuant ces agences, en diminuant ces portes, de fait on crée des bouchons avec une volonté affichée de ralentir les aides et les prestations en destination des usagers.
D'accord.
Donc il y a vraiment une politique affichée.
Alors juste un petit, pour rappeler un petit peu, donc éducateur spécialisé, c'est donc 3 ans d'études d'école, voire 4, après le bac.
Voilà.
Assistante sociale, c'est 3 ans, c'est ça à peu près.
Voilà.
Après, vous passez un concours pour être fonctionnaire de la ville de Paris.
ils font passer un concours, voilà. Et tu es pendant un an stagiaire, c'est-à-dire que tu fermes ta gueule pendant un an.
Voilà, et après, t'es payé combien en fait en moyenne? C'est plutôt 1500 euros, 2005, 3000
T'es payé 1500, 1600 euros, et avec des primes, au bout de 6 ans, 7 ans, toi, tu touches 2000 euros, quoi.
D'accord, ah oui, effectivement, ouais. C'est quand même pas le baiser.
C'est pas non plus, toi, l'apanage. Mais aujourd'hui, il y a 140 millions d'euros qui doivent être économisés par la ville. L'année prochaine, c'est 400 millions d'euros, ce qui veut dire qu'on va subir encore des réorganisations. Nous, par exemple, à la direction de la sociale, de la santé et de la protection de l'enfance, aujourd'hui, on a 5 réorganisations qui sont effectuées. Donc, nous, ça nous mobilise énormément, quoi. Parce que voilà, ça, on est là pour pouvoir adopter des stratégies, pour pouvoir contrer. On a différentes instances comme le CHCCT pour les bloquer, pour les mettre des expertises avant pour évaluer les risques psychosociaux et les conditions de travail, pour les bloquer.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais ils avancent. Ah, ils ont un calendrier et nous on essaie de ralentir toutes ces réorganisations. Mais à la ville, c'est pas que la DASES, c'est l'ensemble des directions, que ce soit la direction de l'architecture avec tous toute la gestion des ateliers. Tu as aussi la direction du logement. Alors la direction du logement, ce qui est afférent, on supprime des services où les agents étaient chargés de lutter contre l'habitat indigne. Tu vois,
oui, c'est ça, oui, non, mais je comprends, oui, mais c'est n'importe quoi. Oui, je vois très bien.
C'est
hallucinant, ouais. Absolument.
Ouais. Donc,
si je comprends bien, je vais juste rappeler un petit peu. Donc, la ville de Paris fait des économies sur la protection de l'enfance, sur le dos des enfants, donc.
Oui, sur le dos des enfants.
Ils mettent les enfants en danger, puisqu'effectivement, ils seront plus protégés de la même manière, puisqu'il y a plus de. Vous avez plus de dossiers, vous avez moins la possibilité de faire le travail correctement, puisque vous avez plus de charges.
Il y aura un accompagnement qui sera mal fait.
Donc ça veut dire qu'en fait il y a pas un article de loi qui empêcherait effectivement de mettre les enfants en danger. Normalement quand on met les enfants en danger, on peut être condamné par la loi pour mise en danger dans votre.
Ah non mais c'est pas la même chose.
Oui, c'est pas la même chose, je sais bien, mais
la gestion des dossiers.
Tu n'y a pas la queue un petit peu, tu vois, j'essaie de
d'essayer. La gestion elle est ralentie. Donc ouais. À partir du moment qu'elle est ralentie, c'est fait que en bout de course, par exemple quand tu as 10 personnes à t'occuper, tu peux arriver à effectuer toute la gestion administrative des demandes pour que l'usager touche sa prestation. Mais si tu as son dossier, tu vas ralentir la machine, de fait. Donc, qu'est-ce qui est pénalisé en bout de course? C'est l'usager. Donc, il y a une volonté très affichée de la ville de Paris, c'est d'abord de virer les pauvres des pauvres de Paris parce qu'ils ne rapportent rien. Hein.
Non, bien sûr, bien sûr.
Ce qu'ils veulent, c'est avoir que des cadres sup qui avaient qui payaient les impôts et ils n'ont pas de prestations à donner. Quand même, alors, parce que à Paris, le département de Paris paye le RSA.
Alors, je comprends. Alors, on comprend effectivement l'économie que fait la ville de Paris sur l'enfance. Mais ça, c'est la raison qu'ils vous ont donnée a priori. Mais quelle réponse syndicale ou politique vous donnez-vous pour effectivement lutter contre cette chape de pion là,
Il y a la maire de Paris qui claironne en permanence que elle veut lutter contre l'exclusion. D'ailleurs, cette année, il y a une grande cause à défendre, c'est la grande cause contre l'exclusion, et qui est mise en place. Mais c'est l'affichage, c'est la communication. Mais quand tu vas sur le terrain avec l'économie qui font, je prends l'exemple, par exemple sur les mineurs isolés, étrangers. Tu vois, les mineurs isolés étrangers, ils ont délégué à un prestataire extérieur pour pouvoir évaluer si l'enfant étranger est bien mineur pour pouvoir prendre en charge ou pas. Voilà. Donc c'est géré par France Terre d'Asile et qui elle, normalement, est chargée d'abord de recueillir dans un premier temps les témoignages des jeunes mineurs isolés pour savoir s'ils sont vraiment mineurs ou pas et ensuite de les confier à l'aide sociale à l'enfance pour qu'ils puissent les prendre en charge. Mais à partir de là, il y a une volonté de la part de cette structure de faire des des analyses, comment dire, osseuses pour savoir si, donc, des radios osseuses pour savoir si l'enfant il est bien mineur ou majeur, mm-hmm. si à travers une enquête savoir si cette enquête est cohérente. Mais en même temps c'est faussé, parce que quand tu as des jeunes africains qui sont balèzes, qui sont enfin 1m80, et aujourd'hui c'est vrai que c'est pas la même morphologie que des petits blancs d'ici. Donc à un moment donné tu peux pas non plus avoir...
Donc l'enquête elle tourne court, quoi, effectivement.
Oui.
Ouais, oui. Bien sûr.
Donc voilà, et tu as plein de jeunes qui sont un peu qui sont pas pris en charge et qui sont à la rue. Okay. On a plein de jeunes voilà, et là c'est carrément à la remise en cause de la Déclaration universelle sur les droits de l'enfant. Toi, ouais. C'est une charte quand même.
Oui, bien sûr. Très bien.
Et sur tous ces principes là.
Oui.
Alors voilà, et moi je suis assez étonné parce que nous on nous dit voilà, la dotation d'État n'est pas faite, il y a la péréquation qui nous donne, l'État doit 1,8 milliard à la ville qui ne donne pas, donc on est obligé de trouver des économies et faire des économies parce que donc il n'y a pas d'argent qui rentre, et s'il n'y a pas d'argent qui rentre, il faut qu'on réorganise tout en gardant un espèce de budget constant, mais on est obligé de réorganiser les choses. Donc ils mutualisent. Mais la mutualisation qu'ils font aujourd'hui avec toute la restructuration et les réorganisations, il y a un but in fine. Mm-hmm. Le but, c'est quand ils vont mettre le Grand Paris en place, Paris Métropole, Paris Métropole, ça va être une espèce de grosse structure qui va gérer Paris et la banlieue, du moins la banlieue 92, 93 et 94, mm-hmm. et qui elle aura la gestion de l'eau, de la voirie, de la propreté et de la santé.
Oui, je comprends.
Et donc,
ok, Amil. Excuse-moi. Alors, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir appelé, parce que c'était important qu'il y ait quelqu'un de chez vous qui appelle. Sache, fais passer ça à tes camarades de l'intersyndicale. Hein, donc, cette antenne vous est ouverte à n'importe quel moment s'il y a des changements dans la situation.
Bon, j'espère que j'ai pas été trop confus.
Non, c'était très bien. En tout cas, je te remercie de l'appeler, et puis tu auras toujours l'occasion, puisque tu as ma petite carte, d'aller voir sur le site. Voilà.
Okay.
Merci beaucoup à toi. Hein.
Allez, bonne soirée.
Bonne soirée. Ciao.
Bonne soirée.
Alors, j'en profite pour me laisser passer un petit son qui a été fait sur place à la manif, donc le 30 juin.
On est des administrations et il y a différents corps de métiers. On travaille tous pour le même but, c'est faire en sorte que les familles, les enfants soient moins dans la précarité, soient moins en danger et qu'on puisse les accompagner correctement. Aujourd'hui, ce qu'on dit et on clame haut et fort, on n'arrive pas à faire en sorte que les gens aillent mieux. Et on n'y arrive pas parce qu'on ne nous donne pas les moyens. On est à Paris, on est à une ville riche et on n'a pas les moyens de faire en sorte que les gens vivent correctement. Voilà. Aujourd'hui, il y a l'aide sociale à l'enfance qui est représentée en force, mais il y a aussi d'autres services de la DAZES. C'est un appel à la grève à toute la DAZES. Maintenant, il y a des mouvements très réguliers sur toute la DAZES. Et je crois que c'est important, à la veille des vacances, de se dire qu'on est encore là et on va bouger. S'il faut continuer le mouvement, continuera, en tout cas, je l'espère. Il faut rester mobilisé. En septembre, peut-être essayer de faire un mouvement global sur la DAZES. Peut-être, j'espère, aussi national, pourquoi pas, parce que je crois qu'on n'est pas vraiment le seul département touché. Aujourd'hui, voilà, il y a vraiment plusieurs revendications. Il y a le redéploiement de postes qui ne prennent pas du tout en compte la surcharge de travail de tous les travailleurs sur les services sociaux et qui font qu'on va encore moins réussir à accomplir nos missions. Alors que déjà, on le dit depuis longtemps qu'on n'y arrive pas. Il y a quelques semaines, il y a le CEFP de Contourny qui est venu ici pour clamer contre la fermeture de leur service, qui accueille des enfants en danger, et il y a aussi des travailleurs sociaux, des gestionnaires, etc., qui sont aujourd'hui qui vont se retrouver sans emploi. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Donc voilà, je voulais quand même le redire aussi parce que c'est important. Il y a la semaine dernière le service social scolaire qui faisait une manifestation devant Mazas pour venir défendre leur poste aussi parce qu'ils vont être redéployés. Et juste, on en a marre, on le dit, pour une fois on arrive à se mobiliser, c'est quand même très rare. Et je me dis, là, il faut vraiment lâcher. Voilà.
On lâche rien. en a marre des suppressions de postes. On souffre déjà au quotidien. On a trop de jeunes en suivi. Et aujourd'hui, on nous informe qu'on va avoir des suppressions de postes et qu'on va nous donner encore plus de travail. Alors qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir du temps pour déjeuner avec les jeunes, pour nous occuper correctement des familles, pour rencontrer les familles à la maison, à l'extérieur. Et aujourd'hui, on nous informe qu'on va créer un service pour les majeurs en limitant le nombre de travailleurs sociaux présents pour les mineurs. Aujourd'hui, ça suffit.
C'est la DASES ?
Exactement.
Bonjour, Laura. Je suis éducatrice spécialisée au sein d'un foyer de l'enfance pour mineurs isolés étrangers.
À Paris ?
À Paris.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, justement ?
Il se passe qu'actuellement, en fait, au sein de l'aide sociale à l'enfance, mais un peu dans toute la protection de l'enfance, on est en sous-effectif, il y a peu de moyens, réellement. Nous, on le voit directement sur le terrain, parce que nous, on est directement auprès des jeunes. Donc voilà, où l'aide sociale à l'enfance, ils ne sont pas forcément disponibles parce qu'ils ont une tonne de situations. Et ça commence à être chaotique, je trouve, le travail auprès de ces jeunes.
Et là, vous allez vous syndiquer bientôt ou c'est pas prévu ?
Je sais pas, j'avais prévu de me syndiquer. Ouais. Mais voilà, après ça prend du temps, je reviens. Moi, ça fait des années que j'étais à l'étranger.
Et oui, c'était un enregistrement que j'ai fait le 30 juin pour les travailleurs sociaux de la DASES. Je suis obligé de couper parce qu'en fait mon enregistrement n'est pas bon et pour la bonne raison, c'était qu'il y avait beaucoup de bruit et que le micro n'était pas bien branché, je ne sais pas. Enfin bref, je m'excuse auprès de vous si jamais vous avez eu des soucis pour écouter cette interview. Très bien, je reprends cette émission, c'est Mode d'emploi pour 106.3 FM, émission des chômeurs précaires. Nous allons passer maintenant un petit morceau de Zorba le Grec, donc c'est sur la Grèce, puisque ensuite c'est le débat avec Ludo sur effectivement la possibilité de la Grèce de sortir de l'euro, qui serait peut-être une chance pour elle finalement, et même peut-être pour l'Europe en entier, voilà.
Tu sais, on peut voir l'avenir d'après ça.
Tu peux, toi ?
Tout va très bien. On va vivre au moins 1000 ans. Oh, je vois un voyage. Un voyage très grand vers une ville avec des maisons très grandes. Pour bientôt, patron ?
Je n'en sais rien. Dans quelques jours.
Qu'est-ce que je fais sans ta compagnie ?
Pourquoi tu te frappes ? Nous nous rencontrerons encore.
Non. Tu t'en vas et tu resteras avec tes bouquins. À ta santé.
À la tienne, Zorba.
Et puis tant pis, patron. Je t'aime trop pour ne pas te le dire. Tu as tout ce qu'il faut, excepté une chose. La folie. L'homme doit avoir un brin de folie, ou alors...
Ou alors ?
Il n'ose jamais couper la corde et être libre.
Tu es fâché après moi ?
Apprends-moi à danser. Tu veux ?
Danser ? Tu as dit danser ? Viens, mon petit gars. Ensemble. Attention. Hop. Encore. Hop. Baisse-toi. Yassou les verres. Patron, j'ai tellement de choses à te dire. J'ai jamais aimé un homme autant que toi. Hop! Hé, hey, patron, est-ce que tu avais déjà vu un plus splendide désastre?
Tu rigoles, toi aussi, hein? Hein, tu rigoles?
Tu as vu comme ils se sont sauvés?
Et surtout, les moines!
La troisième fois était la mieux.
Oui!
Rien n'est resté!
Oui!
Rien du tout!
Ah, ça fait du bien d'entendre un peu de musique grecque parce que la Grèce est un pays magnifique, hein, voilà. Donc la dette souveraine de la Grèce est abyssale, on le sait. Les créanciers ont les dents longues et sont sur la Grèce pour la mordre de tous les côtés. Mais qu'en disent les éditorialistes et journalistes de français à la solde des grands patrons du FMI peut-être. Ludo, tu as fait un petit tour de la question, alors dis-moi un petit peu ce qu'il en est.
Oui, parce que j'ai été un peu choqué par le traitement vraiment enfin ouais, on va pas être partisan mais un peu honteux de la presse française qui semble avoir la mémoire courte, voilà. Donc j'ai fait un petit catalogue là comme ça des perles qu'on a retenu. Donc par exemple, une dette est faite pour être remboursée. Donc ça c'est pas français, c'est un député européen du PPE, le parti de droite. Donc c'était sur France Inter, dans un débat sur France Inter, donc qui a lâché comme ça, une dette est faite pour être remboursée, avant de reconnaître que la dette grecque n'était pas soutenable. Athènes viole les règles en permanence, ça c'était un débat sur Arte, donc les règles en question c'était la règle du déficit des 3% au moment de rentrer dans la zone euro. Tout le monde l'a violé, hein, je vous rassure.
Oui, bien sûr.
Le non-remboursement le non-remboursement donc actuel, le référendum pendant les négociations. Bon, voilà. La solidarité européenne joue depuis le début avec les différents plans d'aide à la Grèce. Ça, c'était sur France Inter. C'était une question de Léa Salamé. Et puis un économiste sur Arte. C'est une économie qui n'est pas développée. La Grèce dépense plus en fait que ce qu'elle produit en richesse, et donc elle doit s'ajuster. Elle doit ajuster son niveau de production. Donc lui, il était carrément pour la sortie de la Grèce de l'euro. Voilà, alors donc, il serait peut-être temps de rappeler quand même d'où vient la crise grecque. Et d'abord de dire que le racisme et la condescendance vis-à-vis de ces petits Grecs est tout à fait déplacé. Rien ne serait pire que de penser que le drame qui se joue en Grèce ne nous concerne pas, et de renvoyer le cas grec aux derniers avatars d'un pays sous-développé dont la population ne mérite pas de faire partie de l'Europe et de la zone euro. Voilà, donc, et le pays de la zone euro. Quand on dit que la solidarité européenne a joué à plein depuis le début de cette crise grecque, on oublie que le plan d'aide à la Grèce a d'abord servi l'Europe à sauver ses banques. 80% des sommes versées à l'État grec depuis le début de la crise ont servi à rembourser ses créanciers, essentiellement des banques allemandes et françaises. Et c'est-à-dire qu'elles n'ont fait en fait que transiter de la BCE et du FMI à Athènes pour revenir dans les banques. Évidemment, banques françaises et allemandes qui étaient exposées à hauteur, à l'époque, sur la dette, ça donne comme une idée, 60 milliards respectivement, 60 milliards pour les banques françaises et 50 milliards pour les banques allemandes. C'était énorme.
Énorme, oui.
Voilà. Et donc, quand on dit se sauver, c'est bien, par la suite, il y a eu un transfert de Grecs, enfin, un rachat des titres de la dette grecque par la BCE, certes à moitié prix, ce qui est une façon de restructurer la dette, ce qui veut dire en fait de supprimer une petite partie de la dette et de les transférer des banques privées vers les fonds publics, la BCE et la FMI. Alors plus important encore, le plan d'aide à la Grèce a servi à sauver la zone euro de l'éclatement. C'est parce que l'Europe a aidé la Grèce que la crise des dettes souveraines n'a pas emporté l'Espagne, le Portugal ou l'Irlande, voire l'Italie, avec les conséquences que l'on sait pour la population et pour la zone euro. Sauver la Grèce, c'était donc surtout se sauver nous-mêmes. Étrangement, les médias français l'ont un peu oublié ces derniers temps. Et on a même dit, c'était avant tout se sauver, c'était l'Europe se sauvait elle-même en sauvant la Grèce. Alors, au fait, d'où vient cette dette grecque insoutenable? Donc, les Grecs seraient-ils un peuple qui a vécu ces 20 dernières années à crédit, au-dessus de ses moyens, comme des cigales fort dépourvues quand la crise fut enfin venue? L'audit de la dette réalisé par le Syriza dès son arrivée au pouvoir montre qu'une partie significative de la dette grecque résulte, comme celle de la France d'ailleurs, des forts taux d'intérêt pratiqués par les banques dans les années 80 et 90, qui étaient déjà shootés aux obligations d'État, avant évidemment que cela ne leur revienne dans la figure. Et on peut d'ailleurs se demander si ces forts taux d'intérêt n'étaient pas les résultats de la politique de convergence des économies européennes qui préfigurait la création de la zone euro. Donc je peux expliquer, par exemple dans les années 90, les forts taux d'intérêt pratiqués par les banques résultaient d'une surévaluation du mark en fait, et déjà à l'époque d'un besoin des monnaies européennes de se coller, de s'agripper aux marques en quelque sorte. D'accord. D'où le besoin d'augmenter leur taux d'intérêt. Donc c'était le cas en France, mais c'était a fortiori le cas en Grèce qui avait une monnaie qui était évidemment bien moins forte. Alors connu aussi ces derniers temps, mais néanmoins surprenant, l'augmentation anormale des dépenses militaires, y compris dans les années 2000, c'est ça qui est le plus étonnant, donc entre 2,5 et 3,2% du PIB, alors ça ne dit pas grand-chose, mais la moyenne européenne était de 1,8. Parce qu'on oublie qu'en Grèce, donc dans cette démocratie grecque, depuis le coup d'État des colonels, les ministères de l'armée, de la justice et de la police ont toujours été particulièrement soignés, et c'est ceux qui, sous le gouvernement précédents avaient été relativement épargnés parmi les ministères. Mais devinez quoi, à qui a profité les dépenses militaires des années 90 et 2000?
Aux États? Aux États de l'Europe?
Aux États d'Europe. Mais parmi les États d'Europe, il se trouve deux États.
Oui, la France et l'Allemagne.
Exactement. Ouais. C'est donc les dépenses militaires ont bien profité effectivement à la France, à l'industrie militaire française qui la Grèce était le deuxième client de l'État français et aussi à l'Allemagne. Enfin, une partie significative de la dette des années 2000 provient de l'érosion de la base fiscale de l'État grec. Dit en clair, il signifierait que l'Union européenne a favorisé l'évasion fiscale des plus grandes fortunes grecques qui sont parties plus ou moins se planquer dans les banques luxembourgeoises, françaises et allemandes,
oui, c'est ça.
Bien entendu.
Pardon, c'est moi.
Donc, tu ne le savais pas.
je le savais voilà. Plus ou moins, mais bon.
Vous recommande ce document. Je vous recommande ce document parce qu'il se trouve aujourd'hui via Attac sur Internet et donc il détaille de façon chiffrée comment la dette s'est constituée et donc ça.
Mais t'as vu, j'ai quand même bien répondu tout à l'heure, donc je passe en classe supérieure.
Ok, d'accord. Mais voilà. Mais alors, le document aussi apprend des choses qui sont intéressantes. C'est par exemple que la dépense publique grecque n'a pas été si élevée que ça par rapport à son PIB lui-même, bien sûr, dont on sait qu'il n'était pas très pas très fiable. Mais les dépenses sociales ne sont pas si énormes que ça par rapport à l'entrée dans la zone euro. C'est quelque chose à savoir. Alors aujourd'hui encore, il semble que le gouvernement d'Alexis Tsipras ne parvient pas à faire rentrer l'impôt. Il y a toujours
un problème.
Mais qui le pourrait réellement en période d'austérité, comme c'est le cas, c'est-à-dire qu'à un moment vous ponctionnez les gens et plus vous ponctionnez, on a le même problème en France, je vous signale, enfin dans de moindres proportions, et surtout avec un système de collecte de la TVA qui est défaillant en Grèce, puisque c'est bien le problème de la collecte de la TVA, un système d'impôt fiable qui pose de gros problèmes pour faire rentrer l'impôt. Voilà. Mais ceci dit, la défiscalisation, je vous rassure, est toujours autorisée. Tant qu'elle reste en Europe, bien sûr, puisqu'on peut évidemment aller mettre son argent en Angleterre, en Allemagne, etc., etc. Alors, la conclusion, c'est est-ce que c'est au peuple grec de payer aujourd'hui pour l'impéritie de ses dirigeants ou pour des erreurs économiques collectives? Et quand je dis collectives, j'inclus dedans, bien entendu, les politiques européennes, voire américaines, puisque il faut quand même rappeler que c'est la crise financière issue des banques et des dettes privées qui a conduit la Grèce au bord du désastre. Alors, le fameux plan d'aide à la Grèce, s'il a servi aux banques à se renflouer jusqu'à aujourd'hui, hein, une partie de la dette maintenant est tenue par le BCE et la FMI, il a été négocié contre un plan de rigueur qui a coûté en termes de dépenses à l'État grec 58 milliards d'euros. L'État grec a produit en 4 ans 58 milliards d'euros d'économies. C'est abyssal entre 2009 et 2012. Sachant que son budget s'élève aujourd'hui à peu près à 50 milliards d'euros, et pour vous donner une idée, celui de la France à 300 milliards d'euros.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc c'est un plan considérable. Son PIB a chuté de 25%. On retrouve ces chiffres à l'époque de la dernière guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'évidemment... avec les conséquences sociales que l'on sait, c'est-à-dire une baisse des salaires, un chômage de masse, des suicides et le dépérissement du système de santé, des hôpitaux qui ne tournent plus. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on a été capable de reconnaître que les errements des dirigeants d'un État n'impliquaient pas la responsabilité collective de son peuple. Il serait peut-être temps de s'en souvenir, maintenant qu'aujourd'hui, on est confronté à une autre forme de guerre.
C'est clair. Ben, merci beaucoup, Ludo. En tout cas, sachez que c'est lundi prochain que le référendum grec se fait. Nous espérons... tu veux peut-être rajouter quelque chose
Oui, en écoutant ça, on ne peut pas s'empêcher de penser aux pompiers pyromanes.
C'est ça.
Aux pompiers pyromanes, parce que quand j'écoute ce qui se passe en Grèce, c'est ce qui s'est passé avec les pays du tiers-monde.
Absolument.
Avec les dettes, on disait oui, les pays sont endettés et ça profitait beaucoup à l'Occident. Et en même temps, pour faire les liens avec les sujets dont j'ai parlé, la CPAM, ce qui peut faire réfléchir, ici, en Seine-Saint-Denis, la personne qui représente la Seine-Saint-Denis à l'Agence régionale de santé, donc l'agence qui est censée réguler les inégalités territoriales sociales, c'est le maire de Pierrefitte. Et il n'était même pas au courant que l'assurance maladie fermait dans sa ville. Alors, c'est, vous voyez,
inadmissible.
Voilà.
En tout cas, donc je rappelle juste qu'effectivement, dans deux jours, c'est le référendum grec. Et nous espérons, nous ici, en tout cas, dans cette émission, que le non va l'emporter. Hein, puisque voilà, ça permettra à l'Europe peut-être de se reconstruire autrement. Sachez que nous soutenons également tous les sans-voix, ceux qui luttent pour garder leur boulot, etc. C'est dans l'émission des chômeurs, on peut le dire.
Et je voudrais préciser pour ceux qui s'intéressent à la sortie de la Grèce de l'euro, qu'il y a deux excellents papiers qui est dans la Pompe à Finance, qui est un papier de Frédéric Lordon, et un papier dans le Monde diplomatique de ce mois-ci, qui présente bien voilà, les alternatives. Voilà, la Grèce n'est pas condamnée forcément à rester dans l'euro.
Très bien. Cette émission se termine. Merci messieurs d'avoir fait cette émission avec moi. Merci messieurs dames de l'avoir écouté. Restez vigilants, ne lâchez rien. Je fais un gros bisou aux filles et une poignée de mon garçon. Ciao.